Au quotidien, avec Hélène Denis.
Ça ressemble à l'été aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité de cette longue fin de semaine. En tout cas, il y avait des gens qui avaient congé hier en cette Journée nationale des Patriotes. Bonjour, Patriote Mathieu.
Bonjour, Patriote Hélène.
En avez-vous profité, vous?
Oui, on a travaillé dans le jardin de mon amoureuse.
Ah oui, qu'est-ce que vous avez semé ou planté?
Qu'est-ce que nous n'avons pas semé? Je sais pas, c'était en charge des trous.
Oui.
Elle était en charge de me dire quoi faire, où mettre.
Bon, mais je pense qu'on a... Pas de fleurs, là, des légumes.
Non,
là.
Non, des pensées.
Ah.
Qu'est-ce qu'on a planté d'autre? Elle a un peu viré. Je ne dirais pas ça en nom.
Sur le capot?
Oui, voilà. À chaque année, c'est la même chose quand le printemps arrive.
Elle est ambitieuse.
Ouais. Et c'était aussi le ménage du terrain communautaire qu'elle partage avec le...
Le jardin communautaire?
Ben, je dis jardin, mais c'est beaucoup plus...
Un espace de terre.
Exactement.
Espace de terre.
Arracher des fines herbes, arracher les mauvaises herbes.
Oui. N'arrachez pas les fines herbes.
C'est le match d'hier qui m'a mis dans...
Oui, hein? Oh. Hey, ça nous rendait sur le bord de la crise d'apoplexie. Oui, il y en a qui ont peut-être appelé le 911, là, mais j'exagère. Mais presque pas, là, parce que c'était très, très énervant jusqu'à la toute fin. Lorsqu'ils ont compté le but gagnant en prolongation, on parle des Canadiens, bien sûr, le hockey. Et on en parle dans toute l'actualité de ce matin. Puis ça se poursuit parce que ça continue pour les Canadiens de Montréal. Alors, moi, j'ai participé à une vente de garage. Mmh. Je faisais partie des vendeurs-vendeuses, là, dans mon hood, comme vous le dites si bien, Mathieu, dans l'Anse de Vaudreuil, en face de l'Ac des Deux-Montagnes, en écoutant les petits oiseaux, des oiseaux, là, qui nous donnaient une envie d'été, là,
ah oui.
Qui nous mettaient dans une belle ambiance, posture par rapport à la vie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais non, on était bien. Puis la vente de garage, finalement, c'est comme un prétexte pour se réunir, mm-hmm, et fêter l'arrivée de la belle saison. Parce que oui, il y a eu des gens qui se sont arrêtés, mais tu sais, avec Marketplace, je ne vais pas faire de publicité, là, on dirait que ça va moins bien. Mais on avait du beau stock à vendre. J'ai regardé pour vous qui cherchez une Catalogne
mais
et
ouais,
un vélo depuis Belle Lurette, mais il n'y en avait pas. Mais il y avait d'autres choses. Il y avait des planches, pas des planches à voile, mais des planches...
Des planches de bois?
Planches à neige.
Ah, oh, d'accord.
Planches à repasser. Non, j'ai pas vendu mes pneus d'hiver, malheureusement, mais j'ai vendu plein d'autres choses. Et ça a été une très belle journée. Il faisait beau le dimanche. Plus
qu'hier,
il y a eu un petit peu de pluie, mais après ça, ça s'est dégagé. Puis aujourd'hui, on a l'impression d'être au mois de juillet. En tout cas, là où on vit, là, dans la grande région métropolitaine, parce que c'est pas
24.
Chaud partout. Puis il me semble que j'ai entendu flocons de neige dans certains endroits. Combien?
Bien, sur ma montre, ça me dit 24.
Oui? Ah oui. Bon, on va partir l'air climatisé.
Pas centimètres, mais 24 degrés.
Oui. Ah non. 24 centimes. Arrêtez de jouer avec nos nerfs, là, ça va faire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? On a beaucoup de choses. La chronique livre avec Anne-Marie Aubin, puisque c'est mardi. Et Anne-Marie me disait qu'elle avait revérifié dans les archives. Elle pensait qu'elle faisait des chroniques ici depuis 7 ans, et non, c'est 6 ans quand même. Elle a commencé en juillet 2020. Elle va nous parler de Migration, publiée aux éditions La Pastèque, qui a remporté le prix des libraires 2026 dans la catégorie BD. Et Valse anxieuse, tout sur l'anxiété, écrit par Catherine Gauthier. Aussi, on parlera de la Marche du Rhin avec Andrew Deschaine, qui est gestionnaire développement philanthropique Ouest du Québec à la Fondation canadienne du Rhin, division du Québec. Il sera avec nous en studio. Et puis, on parlera également, j'ai bien hâte, elle doit se sentir fébrile parce que c'est ce soir qu'elle présente son spectacle. C'est pas un spectacle hommage, mais c'est quand même un spectacle en l'honneur de la regrettée chanteuse Renée Claude. Je parlerai avec Laetitia Isambard de ce beau projet. J'y serai d'ailleurs dans la salle ce soir parce que j'adore Renée Claude et je trouve que cette interprète comédienne Laetitia Isambard a une belle voix pour porter la chanson de Renée Claude, les succès de Renée Claude. Et on commence, on va en écouter un des succès de Renée Claude, mais pas tout de suite, pour tout de suite une chanson qui va nous mettre, je sais pas, dans l'esprit de cette belle journée.
À l'année longue, c'est le springtime. Shades on, chaise longue, on a bonne neige. Moins 40, ciel ouvert sur un île vague. Take a chill pill, on va passer l'hiver. Depuis les années 2000, je suis resté le même. Montréal m'a vu naître dans un autre millénaire. J'ai pris de l'âge like fine wine. J'ai lâché le volant pour te faire un high five. Rap life, j'suis plus locataire. J'visais trop high pour un 9 à 5. J'ai craqué la fenêtre pour les bad vibes. Shine bright comme la neige sous les black lights. J'suis un peu pile mile. Everything's right quand t'es by my side. J'veux les plaisirs de la chair, fuck a FaceTime. Get busy sur le baseline. J'ai besoin de rien, juste ton temps. Somme le mien, c'est le printemps. Quand tu reviens, on est quand. J'en sais rien, j'ai pas de temps. Jusqu'à demain, y'a trop de gens dans mon chemin. Le feu prend dans nos mains. Ça fait longtemps qu'on est trop loin. Mais c'est le printemps quand tu reviens. Check ma façon de faire. Get crush dans les poches pour les plafonds de verre. Get la hottest dans la rue pendant que tu m'accompagnes. J't'en mets toujours plein la vue quand on fait eye contact. Les minutes qui passent vite comme un finger snap. On fait de la buée d'un vide jusqu'au 22 mars. Grown man shit, fini d'avoir l'air amateur. Il faut que je me lève de bonne heure si je vais aller faire un malheur. Get it, t'es un smart qui fait fondre la glace. Un peu de pep dans le step et tu own la place. On get close, on va garder nos clothes. On est trop dope pour comparer aux autres. À l'année longue, c'est la Saint-Jean. Pas besoin de rollie pour te dire que j'ai plus 20 ans. Pas travailler, c'est ma job à plein temps. De l'hiver au printemps, j'ai besoin de rien. Juste ton temps, donne le mien. C'est le printemps quand tu reviens. On est quand, j'en sais rien. J'ai pas de plan jusqu'à demain. Y'a trop de gens dans mon chemin. Le feu prend dans nos mains. Ça fait longtemps qu'on est trop loin. Mais c'est le printemps quand tu reviens. C'est le printemps quand tu reviens. C'est le printemps quand tu reviens.
La chanson Printemps de Corias.
On en parlait de hockey, Canadien 3, Sabre 2, et ça continue, point d'exclamation. Passé maître dans l'art des victoires improbables, Jakub Dobesch et le tricolore ont refait le coup hier au Sabre dans le 7e et ultime match de leur série. Prochaine destination, la Caroline du Nord. Des partisans comblés et affamés, oui, ça se passait à Buffalo, mais à Montréal, il y avait aussi des gens qui remplissaient le Centre Bell, qui se sont aussi massés dans les rues. Les partisans du Canadien de Montréal ont laissé éclater leur joie dans les rues du centre-ville de la métropole dans la nuit de lundi à mardi. Klaxons, feux d'artifice, même si c'est illégal, fumigène, mais aucun débordement majeur n'a eu lieu, selon la police, et c'est tant mieux. Et si on va aussi du côté des femmes, victoire 1, charge 2, une défaite, mais rien n'est perdu. J'allais dire go abs go, mais pour les femmes, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Mathieu? Montréal tentera à nouveau demain de remporter la Coupe Walter. Alors, si vous avez une idée, vous pouvez nous la partager avec nous. Alors, victoire 1 et charge 2, et ce n'est pas fini, ça se continue mercredi. Palmarès annuel, les millions des patrons. Pour la première fois, une femme trône au sommet. Une femme au sommet, donc, c'est une femme d'affaires qui se classe au sommet du palmarès annuel de la rémunération des présidents d'entreprises situées au Québec et de plus de 500 millions en valeur boursière. Il s'agit de Tracy Robinson, PDG du Canadien National, le CN, l'un des plus gros transporteurs ferroviaires en Amérique du Nord avec 17,3 milliards de dollars en chiffre d'affaires et 17 175 employés. Pour sa troisième année complète en poste depuis sa nomination en janvier 2022, Mme Robinson a été rémunérée pour une valeur totale de 21,4 millions en hausse de 15 % par rapport à l'année précédente. Cette rémunération comprend 1,59 million en salaire de base, 17,1 millions en valeur des primes en actions et en options d'actions et 2,2 millions en boni du régime d'intéressement annuel des hauts dirigeants du CN. C'est donc un titre qui fait la une de la presse d'aujourd'hui, du palmarès annuel, les millions des patrons. À la une du Journal de Montréal, devinez, wow, ça continue. On parle de la victoire des Canadiens de Montréal. Et puis, à la une du Devoir, les Patriotes célébrés à Montréal. Quelques centaines de personnes ont marché du Parc Laurier au Parc Molson lundi à Montréal pour commémorer le combat qu'ont mené les Patriotes contre l'Empire britannique il y a presque 200 ans. Cette année, c'est le courage et les combats des femmes patriotes qui étaient à l'honneur du rassemblement. Plusieurs politiciens étaient présents, comme Jean-François Roberge, ministre de la langue française, et Ruba Gazal, chef parlementaire pour Québec solidaire. Le parc marin tarde à s'agrandir, c'est un autre titre à la une du Devoir de ce 19 mai. Le projet de bonification majeure de l'aire marine protégée se heurte à des obstacles du côté de Québec, a appris le Devoir, même si les gouvernements du Québec et du Canada avaient promis un agrandissement majeur de la plus importante aire marine protégée de la province avant la fin de 2025. Le projet se heurte à des obstacles du côté du gouvernement du Québec. Les délais qui s'allongent risquent d'ailleurs de reporter cette annonce bénéfique pour la protection de la biodiversité au-delà des prochaines élections provinciales. Québec et Ottawa avaient annoncé en mars 2023 leur intention de quadrupler la superficie du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, qui est situé au cœur de l'estuaire du Saint-Laurent et qui englobe une partie de la rivière Saguenay. Ce projet, évoqué à plusieurs reprises depuis la création du parc marin en 1998, doit permettre de faire passer la superficie de cette aire marine protégée à près de 4 500 km². Cette expansion permettrait de couvrir la totalité de l'habitat estival du béluga, une espèce en voie de disparition qui a motivé la création du parc marin. Les deux ordres de gouvernement qui doivent achever le projet conjointement avaient prévu que l'agrandissement serait réalisé avant la fin de 2025. Or, selon ce qu'a appris le Devoir, des obstacles principalement techniques du côté du gouvernement du Québec retardent l'annonce du projet. Il faut dire que les limites s'étendraient jusqu'à l'île aux Coudres en amont et jusqu'au parc national du Bic en aval, en incluant le secteur de Kakuna, considéré comme une pouponnière pour le béluga. Cela signifie que le territoire protégé devrait rejoindre la rive sud du Saint-Laurent, ce qui n'est pas le cas actuellement. Or, cette situation a fait apparaître un enjeu d'occupation du domaine hydrique, puisque des terrains situés sur la rive sud peuvent potentiellement inclure une portion qui s'avance dans l'estuaire du Saint-Laurent. Si vous voulez avoir encore plus de détails, c'est un texte signé Alexandre Schill dans Le Devoir d'aujourd'hui. On parle avec la comédienne-chanteuse Laetitia Isambert du spectacle en l'honneur de René Claude. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va l'écouter, René Claude.
C'est notre fête aujourd'hui. Je t'offre un verre d'eau de pluie. Depuis un an, jour pour jour, on est ensemble, mon âme.
Une des belles chansons signée Stéphane Venn, interprétée par René Claude. Et c'est ce soir, à la 5e salle de la Place des Arts, que la comédienne et chanteuse Laetitia Lambert va présenter son spectacle De mémoire, un spectacle inspiré de l'univers de René Claude. Elle est au bout du fil. Bonjour Laetitia.
Bonjour Hélène.
Comment vous vous sentez à quelques heures de votre présentation?
Je ne sais pas s'il y a un mot pour résumer tout ça. c'est complexe, hein? C'est comme le trac, c'est autant ce moteur que c'est paralysant, c'est souffrant, c'est galvanisant, donc on est pas mal là-dedans.
Oui, mais oui. Une fois sur la scène, on dirait que la magie opère.
Oui, mais on dirait qu'on oublie toujours que c'est ça qui va arriver.
Oui, alors... J'ai bien hâte de découvrir ce spectacle-là, Laetitia. Je serai dans la salle ce soir et j'étais curieuse, j'ai lu quand même, là, mais pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, là, racontez-nous un peu comment est née l'idée de monter un spectacle consacré à la grande interprète qui était René Claude.
En fait, moi, je devais faire partie d'un projet, un spectacle qui serait en tournée à travers le Québec avant la pandémie. J'avais passé l'audition, j'avais obtenu le rôle et puis... suite à la pandémie, le projet est mort dans l'œuf, en fait. Donc, mais reste que à l'audition, j'ai rencontré François Dubé, qui était un des pianistes de René. Et quelques années plus tard, en fait, c'est-à-dire 3 ans plus tard, je pense, il m'a écrit un soir, puis il m'a dit « Hey, Robert Langevin, qui est le mari de René, et moi, on pense vraiment à toi pour faire un projet sur René Claude, un spectacle. Mm-hmm. » On pensait que tu serais tout désigné pour... pour ça.
Mais bon, Laetitia, moi, je vous arrête. L'audition que vous aviez passée il y a quelques années, c'était pour participer à un spectacle dans lequel vous incarniez René Claude ou vous chantiez René Claude?
Oui, pardon. C'était un spectacle sur René en tournée à travers le Québec et il y avait 2 autres artistes avec moi et voilà. C'était un tour de chant, mais je peux pas. J'avais pas beaucoup d'infos, on n'a jamais répété rien, puis j'ai pas reçu de texte.
Non, c'était embryonnaire.
C'était très embryonnaire. Ouais. Moi ensuite j'ai cogité sur ce message-là, et puis quelques mois plus tard j'ai répondu à François, c'est-à-dire je lui ai dit ok, je me lance, puis André Ducharme, qui est un très bon ami de René aussi, s'est joint à nous, puis les trois ils m'ont donné le go, en fait.
Oui, ce sont des personnes tout à fait pertinentes, là. Robert Langevin, le conjoint de René Claude, André Duchamp, qui a consacré, qui était un amoureux fou là, de René Claude, de l'artiste, oui. Et qui a écrit un livre sur elle, d'ailleurs.
C'est Mario Girard qui a écrit un livre que j'ai lu, mais André, je sais qu'il m'a confié énormément... d'entrevues, d'archives. Étant journaliste, c'est sûr qu'il l'a couvert beaucoup.
Oui, un super portrait. Je me souviens de l'avoir lu. Je crois bien que c'était dans l'actualité. Alors, vous, Laetitia, est-ce que vous la connaissiez, René Claude, avant de plonger dans son univers?
Je la connaissais comme beaucoup de fans la connaissaient. On l'écoutait chez moi. Mon père... a toujours été un fan de René Claude, puis elle a parsemé mon quotidien de plein de façons, comme j'ai déjà dit en entrevue, j'ai interprété la sœur d'Émile Néligan dans l'opéra Néligan,
oui.
La mouture du TNM juste avant la pandémie, puis bon, René Claude avait été de la première mouture, je crois, mm-hmm. Et je l'écoutais avant chaque soir, tu sais, elle était vraiment, je l'ai toujours sentie avec moi, mais bon, nos chemins se sont pas croisés d'une autre façon avant mon audition pour ce fameux projet qui a pas eu lieu, finalement.
Et paraît-il que le spectacle, c'est plus qu'un hommage. Comment vous définissez le spectacle?
Oui, je trouvais que d'avoir accès à autant d'archives, d'avoir accès à autant de matériel sur René ça m'a vraiment inspirée, en fait, à aller plus loin que ça, plus loin que le tour de chant. Puis en fouillant dans toutes ces archives, les textes inédits, ses correspondances, ce qui est ressorti, c'était son grand, grand besoin de créer, au-delà d'interpréter des textes écrits par d'autres, en fait par des hommes. c'est son besoin de créer, qui était viscéral et qui n'a pas pu... elle n'a pas pu, en fait...
Se déployer.
Exact. Et c'est ce que je trouve triste et dommage. Et j'ai l'impression bon, qu'en 2026, on a quand même fait du chemin par rapport à ça, heureusement, puis que mon humble tribune d'artiste qui œuvre en 2026, ben, pourra peut-être servir à mettre en lumière ce besoin de création et de cette effervescence-là qu'il y avait en elle, puis que je pense qu'elle aurait aimé révéler au grand jour, mais qu'elle n'a pas eu l'occasion.
Y a une sorte de surprise, mais là, ça a circulé. Il y a une chanson qui a été écrite par René-Claude elle-même, oui, et qui n'a jamais été enregistrée, que vous allez offrir au public?
C'est-à-dire, il y en a deux. Oui, il y a un texte qui était griffonné sur une feuille que j'ai retrouvée.
Oui.
Et que mon conjoint et directeur musical et guitariste du spectacle, Joël Racine et moi, on a mis en musique. Donc ça, on va le présenter ce soir. Et puis, Mourir d'amour, une chanson qui a été déjà présentée une fois en public, je crois, mais qui n'a jamais été enregistrée.
D'accord.
Donc les deux seront présentées.
La première... Voilà, donc, la première s'intitule « Celle qu'on n'a jamais entendue », là, c'est « De mémoire
». De mémoire, non, ça c'est une chanson qui a déjà été endisquée, c'est-à-dire que c'est un texte qu'elle écrit, auquel j'ai donné un titre moi-même, en fait, il n'y avait même pas de titre. Là,
ah bon, d'accord, c'est un petit peu confondant, voilà, parce qu'on nous a envoyé la nouvelle avec un extrait de cette chanson-là, alors je croyais que c'était,
oui,
celle-là, mais c'est quoi le titre? «
Mourir d'amour ».«
Mourir d'amour ». ».«
Mourir d'amour ».
Et voilà, puis l'autre?
Je lui ai donné le titre « Entre les quatre murs », mais bon, ça reste vraiment officieux comme titre.
D'accord.
C'est René qui l'a donné.
Oui.
Donc voilà, à travers ça, il y a comme des capsules, des vignettes, sans être des scènes, parce qu'il n'y a pas d'autres comédiens ou comédiennes avec moi sur scène, mais je fais le pont entre chaque chanson dans une mise en contexte, sans pour autant être chronologique. Là, c'est pas du tout un biopic ou quoi que ce soit, ce spectacle-là. Il n'y a pas une chronologie qu'on peut comprendre, qu'on peut suivre, mais vraiment, c'est ça, des vignettes qui peuvent mettre en contexte chaque chanson. Donc ça passe aussi donc par le théâtre. C'est pas uniquement de la musique, il y a aussi un aspect très théâtral qui a été mis en scène par Clara Prévost.
Donc voilà. René-Claude possédait un répertoire de chansons extrêmement riche. Qu'est-ce qui vous a guidé quand est venu le temps de choisir les titres qu'on va entendre ce soir? Est-ce que c'est vous qui avez eu carte blanche pour décider, oui, de tout?
Oui, ça c'était vraiment...
important.
C'était vraiment, vraiment... oui,
fondamental.
Très fondamental et très, très puissant pour moi de pouvoir juste plonger la page, choisir au final. Mais ça a été très facile comme choix parce que j'ai tassé tout ce qui était chansons d'amour, chansons sentimentales. Il y en a, mais c'est toujours dans un but de... il y a un certain angle politique à ça. C'est pas seulement dans le but de chanter des chansons d'amour. Là. Mais la plupart... parle de l'émancipation féminine, de vouloir défoncer des barrières, de vouloir... de chanter autre chose que l'amour, en fait.
C'était le côté de René-Claude que vous vouliez montrer.
Oui, exact.
Alors, on n'entendra pas ce soir « Je fais l'amour avec toi » de Luc Plamondon. En fait,
oui, on va l'entendre.
Ah?
On va l'entendre, mais comme je dis, dans un but avec une toile de fond politique.
Oui, ça, oui. Et un angle féministe aussi, j'imagine.
Exact. Oui, exact.
Et le spectacle évoque une époque où les femmes interprétant justement souvent des textes écrits par des hommes, comme vous l'aviez dit tantôt. Qu'est-ce que René-Claude aurait voulu dire elle-même si elle avait eu davantage de liberté artistique, selon vous, Laetitia?
Ben moi, ce à quoi j'ai eu accès, qu'elle a écrit, tu sais, de façon, c'était très officieux, là, c'était sur des feuilles lignées que j'ai retrouvées. C'était quand même, ce qui ressortait, c'était quand même ce besoin de crier et de s'assumer et de montrer qui elle était autrement que par une interprète, en fait. C'était beaucoup ça qui ressortait. Mourir d'amour, qu'elle a écrit aussi, quand même, je pense que, tu sais, René était une femme très, était une amoureuse,
oui,
était une romantique, donc c'est
ça. On peut pas faire
ça.
Non, absolument pas. Ça fait
elle qui l'a écrit, ça, pour moi, ça on est ailleurs, là. C'est juste, je trouve que c'est paradoxal d'entendre René à l'époque, bon, c'est une autre époque, bien sûr, on était ailleurs totalement, mais d'entendre René chanter l'émancipation féminine, de chanter les femmes sont libres et font l'amour comme elles le veulent, mais que ça soit écrit et composé par des hommes, en fait. J'aurais aimé entendre au grand jour Je fais l'amour avec toi, écrit par et composé par René Claude, en fait.
Oui, mais en même temps, quand ce ici, ce sont des hommes, mais on sent qu'il y a un esprit quand même assez ouvert. Des
oui,
hommes
totalement.
Féministes, ça existe aussi.
Ah, totalement, oui, oui. C'est pas du tout, puis comme je le mentionne dans une lettre ouverte qui est destinée à Stéphane Venn dans le spectacle, c'est pas du tout il n'y a aucune accusation portée sur les hommes. C'est vraiment un problème de société à l'époque, mais qui est aucunement dans l'attaque de qui que ce soit, d'aucun pan de la société. C'est vraiment juste, bon, à l'époque, il y avait un plafond de verre et qu'il fallait défoncer,
ouais.
Qui a été fait par la suite par des Marie-Carmen et des... qui, mais voilà, donc c'est juste ça que j'expose, mais c'est fait tellement dans l'amour, dans la paix.
et c'est ça, vous contextualisez la chose, là. Comment vous interprétez les chansons de René Claude?
Vous voulez dire au niveau vocal, au niveau... ben, je suis pas du tout dans l'imitation. C'est, ça n'a jamais été un moteur pour moi. Je pense qu'inconsciemment, elle m'a influencée dans mon interprétation. Oui, parce que je l'ai toujours écoutée et que René Claude, c'est une idole pour moi, mais je suis pas du tout dans l'imitation. C'est Laetitia qui va de son interprétation personnelle. Et puis, voilà, après, les gens en feront... Les rapprochements qu'ils veulent, mais c'est pas ça du tout le but du spectacle.
Bien, on a bien hâte de découvrir ce spectacle-là, Laetitia Isambert, et on vous souhaite plusieurs représentations parce qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, j'en suis convaincue. Bon, on ne pourra pas entendre de mémoire, peut-être une petite minute vers la fin de l'émission, Mathieu, puis pour entendre la texture de votre voix, je suis certaine que René Claude serait touché de vous entendre.
Mais je la sens beaucoup avec moi. Il fait très chaud aujourd'hui, elle adorait le soleil. Les Canadiens ont gagné hier. Je sais pas, là, je sens que ce soir, il va y avoir de l'électricité dans la salle.
Oui. Alors, le mot de Cambronne, comme vous êtes aussi une comédienne. Merci, Laetitia, pour l'entrevue.
Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et on va joindre Michel Poitvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour, Michel.
Bonjour Hélène.
Michel, Statistique Canada publiait ce matin même les chiffres de l'inflation du mois d'avril.
Oui, puis bon, on a toujours l'habitude d'en parler à chaque nouvelle publication de Statistique Canada sur l'inflation, mais on est d'autant plus intéressé maintenant que malheureusement, il y a une guerre en Iran, puis ça touche tout le Moyen-Orient depuis la fin février, puis ça affecte le prix de l'énergie, puis comme l'énergie, le pétrole, ça entre dans à peu près tout ce qu'on consomme. On se dit, ben si le prix de l'énergie augmente, ça va avoir un impact sur l'inflation, donc c'est un... avec cet intérêt supplémentaire qu'on se demande ce qui se passe. Alors, oui, on a les chiffres pour le mois d'avril. Au Canada, l'inflation générale sur une base annuelle était de 2,8 %. Puis en février, on avait 1,8 %, puis 2,4 % en mars. Donc, l'inflation générale a augmenté en avril, ce à quoi on s'attendait, mais c'est peut-être un peu en deçà des attentes là, des experts qui suivent attentivement ce qui se passe. Cette hausse est principalement due au coût de carburant. Là. Les prix de l'énergie, tenez-vous, ils ont progressé de 19,2 % au Canada d'une année à l'autre, alors qu'en mars, l'augmentation était de 3,9 %. C'est énorme, là, 20 % sur une base annuelle, c'est énorme. Si ça n'avait pas été de l'essence, si on retire l'essence là, du panier de biens qu'on utilise pour regarder le niveau des prix et l'inflation, bien, l'inflation aurait été de 2 % en avril comparativement à 2,2 % en mars. Donc, on se rend compte que l'inflation là n'a pas... où le prix de l'énergie n'a pas transpiré dans le reste de l'économie encore. Là. Une chose qui a aidé, c'est que, si vous vous souvenez, je pense qu'on en a parlé, le gouvernement Carney avait suspendu la taxe d'assises sur le carburant là, suite à la guerre en Iran qui avait fait augmenter le prix de l'essence à la pompe. Donc ça aide un petit peu parce que une taxe qui s'en va, donc ça freine l'augmentation des prix puis ça aide un peu. Si on regarde juste les prix de l'essence, là, tout à l'heure, je vous parlais des prix de l'énergie, là, qui est le mazout, l'essence, toute forme d'énergie, mais juste l'essence, en mars, 28,6% d'augmentation contre 5,9%. Ouais. En avril, pardon, contre 5,9% au mois de mars. Puis, si on regarde le coût du transport, puis l'essence est une composante importante là, du coût du transport, juste l'indice du transport a surgi de 7,6%. En avril, toujours sur une base annuelle. Mais encore une fois, comme je disais, ailleurs dans l'économie, on ne semble pas avoir d'effet encore. L'inflation sur les aliments, l'alimentation, 3,5% en avril versus 4% en mars. Donc, ça a même, le taux d'inflation a même ralenti un peu, même s'il est en haut de 2%. Puis le logement, le prix, le logement là, aussi, la hausse a ralenti de 4,2% en mars à 3,6% au mois d'avril.
Est-ce qu'on a des données pour le Québec?
Oui, pour le Québec, on est toujours un petit peu en haut de la moyenne canadienne, là, certainement depuis peut-être à peu près un an. Les prix ont augmenté de 3% en avril, alors qu'au mois de mars, ils sont à 2,9%. Donc, pas un gros changement, mais quand même en haut de la moyenne, légèrement en haut de la moyenne canadienne, qui était de 2,8%. Puis peut-être une des raisons pour ça, c'est que, souvenez-vous, Carney, lorsqu'il est arrivé en poste, il avait éliminé la tarification du carbone pour les consommateurs. Donc ça avait contribué à baisser le prix de l'essence partout au Canada, sauf dans quelques provinces qui ont leur propre régime de tarification du Québec, du carbone, pardon, notamment le Québec, là, avec notre marché du carbone. Donc, nous, on n'avait pas bénéficié de cette élimination-là au niveau fédéral. Puis, et donc, ailleurs au Canada, les prix n'ont pas augmenté aussi vite encore à cause de l'élimination de cette tarification-là. Mais au Québec, on n'a pas eu ça. Donc, ça peut expliquer en partie pourquoi l'inflation est un peu plus élevée au Québec qu'ailleurs. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté, mais les répercussions dans le reste de l'économie sont pas encore là. On va espérer qu'elles ne viendront jamais. Est-ce que c'est une question de temps? On ne sait pas trop. Je lisais un article ce matin là, qui nous parlait que des agriculteurs modifient leurs activités de semences parce que pour eux, le pétrole, l'essence, c'est une composante importante. Là. Remplir un tracteur, le bidon d'essence d'un tracteur, ça coûte... Ce qu'il disait, c'est que ça coûte 80 $ de plus qu'avant. Donc, 80 $ c'est l'augmentation. C'est pas le prix de remplir d'essence. Maintenant, ça coûte 80 $ de plus. Alors, ce qu'ils font, là, avant, ils semaient puis ils pouvaient passer 3-4 fois dans le champ là, ou 2-3 fois pour mettre les semences. Maintenant, ils ne passent qu'une fois. Puis même, ils changent le type de semences qui inclut aussi peut-être des engrais là, pour pas avoir à repasser plus tard.
Donc, ah oui, un vrai jeu de domino, hein?
Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va arriver au prix des aliments dans 1, 2 ou 3 mois quand les récoltes vont être prêtes? Ça va être à suivre. On espère qu'il n'y aura pas trop de répercussions, là, mais puis il n'y en a pas encore en ce moment, mais c'est difficile d'être optimiste, malheureusement.
Bon. Alors, heureusement qu'il fait beau et chaud aujourd'hui. Je ne sais pas dans votre coin de pays si le soleil brille.
Ben oui, l'été est arrivé tout d'un coup. On a l'impression que c'est notre lot depuis quelques années. Hein? Le printemps n'est pas très beau, puis tout d'un coup, c'est l'été.
Oui, c'est l'été aujourd'hui, puis ça va être le printemps probablement demain et après-demain. Alors, profitons-en. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
fois je me retrouve, d'autres fois je me repère. Quand je suis tout croche, cherche un moyen, passe à travers des ivoires clairs. Et tout à coup, il y a quelque chose qui arrive, qui fait que je me retrouve encore ben en vie. Un gros flash monte dans un coin de ma cage thoracique. Comme un cadeau, un beau grand voyage au Mexique. Puis là, je dis waouh, peux-tu même dire ce que je fais ici? Tu vas me dire ce que je fais ici? Tu vas me dire ce que je fais ici?
Là, Hélène, vous venez de me faire plaisir. C'est rare qu'on la fait jouer. Le gros flash mauve de Plume la traverse.
Quelle belle chanson.
Sur 6 minutes. C'est peut-être pour ça qu'on ne la fait pas jouer souvent.
Non, c'est ça. On avait le temps. Et puis, on entendait aussi la belle voix de Fabienne Thibault avec celle de Plume la traverse. Et savez-vous pourquoi je l'ai, qu'on l'a fait jouer, Mathieu?
Pour me faire plaisir.
Pour vous faire plaisir, mais aussi parce que Plume a eu 80 ans le 11 mai dernier. Il est né en 1946, on a parlé des 80 ans de Ginette Renault, on a parlé des 80 ans de Michel Richard, mais on n'avait point parlé des 80 ans de Plume. Il me semble que Plume, ça se peut pas qu'il vieillisse, puis on dirait que 80, mais c'est jeune. Quand c'est Plume qui l'a? Alors, en studio, il est en train de s'installer lentement, mais sûrement. Il s'agit d'Andrew. Est-ce qu'on dit Andrew?
Andrew.
Andrew. Andrew.
Andrew.
Andrew. Andrew Deschênes, ça je le dis bien. Bonjour Andrew. La Fondation du Rhin donne le coup d'envoi à la Marche du Rhin. C'est un mouvement de solidarité qui va faire vibrer, dit-on, les communautés aux quatre coins du pays entre les mois de mai. Ça a déjà commencé jusqu'en octobre 2026. Bonjour Andrew.
Bonjour Madame Denis.
Alors, vous pouvez m'appeler Hélène.
Bonjour Hélène.
Ça va être plus équilibré.
Oui, tout à
bon,
fait.
Alors, dites-nous en quoi consiste la Marche du Rhin, quel est son objectif, qui peut y participer. On vous écoute.
Donc, merci beaucoup de l'invitation ce matin.
Plaisir.
Donc, la Marche du Rhin, c'est un des événements signature de la Fondation canadienne du Rhin. Donc, ça fait maintenant 18 ans que nous avons les Marches du Rhin ici au Québec. Nous avons 22 marches qui auront lieu à travers le Québec, qui débuteront le 31 mai prochain à Châteauguay jusqu'au 17 octobre prochain à l'île d'Orléans.
Oui.
Donc, je vous invite à aller retrouver les différentes marches sur notre site internet marchedurin.ca. Vous aurez assurément des activités près de chez vous. La Marche du Rhin, c'est plus de 6 500 participants qui sont venus l'année dernière. On a récolté plus d'un demi-million pour la recherche et aider les programmes pour les patients souffrant d'insuffisance rénale et en attente d'un don d'organes. Donc, comme vous le savez, souvent, les maladies rénales sont moins connues un peu que les autres maladies. On veut sensibiliser le public. On va aller rejoindre les gens qui sont à risque aussi, aider les patients avec nos programmes. C'est plus de 10 % de la population canadienne qui sont à risque. Donc, c'est plus de 4,1 millions de personnes qui sont touchées directement ou indirectement. Donc, on veut vraiment amener le discours public à aller rejoindre ces gens-là.
Oui. Et la Fondation du Rhin lance plus de 20 marches. On appelle l'événement la Marche du Rhin, mais vous auriez pu aussi l'appeler les Marches du Rhin parce qu'il y en a quand même plusieurs dans une dizaine de régions du Québec. Et comment ça se passe exactement? Là, les gens s'inscrivent pour marcher?
Oui. Exactement. Donc, vous vous inscrivez pour marcher environ... Une marche du Rhin, c'est environ 5 km. C'est environ une heure de marche. Donc, vous vous inscrivez en ligne sur notre site que je vous ai déjà indiqué l'adresse un peu plus tôt. Vous venez, on fait quelques discours, on fait des témoignages avec des patients, des membres de la famille, des professionnels de la santé mm-hmm. pour conscientiser, sensibiliser aux maladies rénales. Puis ensuite, c'est très festif, c'est très familial. Tout le monde peut participer, les patients, les gens des hôpitaux, la population qui veulent s'instruire et aussi appuyer la cause. Donc, c'est vraiment très festif et familial, ouvert à tous et à toutes.
Alors, l'objectif, c'est de faire connaître les maladies rénales, mais c'est aussi d'amasser de l'argent.
Oui.
Vous me parliez de 1,5 million. C'est l'an dernier que vous avez atteint ce montant-là. Oui. Est-ce que vous avez le même objectif cette année ou vous allez encore un peu plus loin?
un peu plus loin encore cette année. On a un peu plus de... Notre objectif officiel est d'environ 525 000 cette année. Donc, on a une progression d'environ quelques pourcentages à chaque année. Les coûts pour les médicaments, pour les traitements augmentent
tout
augmente. Donc, nous aussi, on veut augmenter l'appui. La Fondation canadienne du Rhin donne la majorité de ses fonds pour la recherche.
Ah oui?
Parce qu'il n'y a pas de traitement curatif présentement pour les maladies rénales. Donc, nous, c'est la majorité de nos fonds vont pour la recherche, mais aussi pour tous nos programmes et services pour les patients en attente d'un don d'organes ou souffrant d'insuffisance rénale.
C'est quoi, justement, une maladie rénale? On entend, une fois de temps en temps, des gens qui sont en attente d'un rein, qui vont en dialyse, mais c'est quoi exactement être atteint d'une maladie rénale?
Oui, bien, c'est une bonne question et c'est exactement le but que je suis ici aussi aujourd'hui pour éduquer un peu la population, pour essayer de sensibiliser les gens. Donc, c'est vraiment quand que nos reins qui filtrent le sang et qui rejettent les déchets à travers l'urine.
Ouais.
Nos reins aussi servent à réguler notre pression artérielle. Et aussi, ils produisent certaines hormones comme les globules rouges. Donc, c'est très, très, très important comme organe. Qu'est-ce que l'insuffisance rénale? C'est que graduellement, les reins vont perdre de la capacité de filtration, si vous voulez, notamment avec le sodium, le sel peut affecter les reins, le phosphore peut affecter les reins, le potassium. Tout le monde aime une bonne banane après un entraînement.
Oui.
Tout est dans le dosage dans la vie.
Tout le temps, l'équilibre.
L'équilibre dans la vie, le potassium, le sodium, le phosphore, ça dégrade les néphrons qui filtrent le sang. Donc, ça diminue notre capacité rénale. Et je tiens à dire à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent que les reins ne peuvent pas récupérer de la capacité rénale.
Ah non, une fois que le mal est fait, le mal est fait. Ça se régénère pas comme le foie.
Exactement. Donc, ça ne peut que descendre.
Aïe, aïe, oui.
Ouais.
Et puis, à vous entendre parler, on a un certain contrôle sur notre santé rénale parce que dans notre façon de manger, dans les choix qu'on fait, des aliments, aussi, j'imagine que l'activité physique peut aider.
Comme on dit, tout est dans tout.
Ouais.
Donc, c'est sûr que principalement, les principales causes d'insuffisance rénale sont le diabète et l'hypertension. Donc, c'est sûr que c'est les principales causes, mais...
Est-ce qu'on peut naître avec une maladie rénale?
Oui, il y a des prédispositions génétiques aussi. Il y a certains groupes de la population qui sont plus à risque, notamment les populations autochtones, qui ont un facteur de risque un peu plus élevé que le reste de l'ensemble de la population.
Oui,
tout à fait. Donc, c'est aussi un des mandats que la Fondation veut mettre de l'avant dans les prochaines années, de vraiment adresser les personnes à risque, puis d'aller les sensibiliser et d'apporter leur voix aussi auprès des décideurs pour que ce soit vraiment pris en compte.
Donc, est-ce qu'on s'en rend compte assez rapidement quand on est atteint d'une maladie rénale?
C'est exactement là que j'allais, madame.
Ah oui?
Donc, il n'y a aucun signe.
Maladie silencieuse.
Maladie silencieuse à 100%. Le seul signe que vous aurez, c'est de la fatigue.
Ah.
Donc, en 2026, vous savez comme moi qu'on a 1 million de raisons d'être fatigué. Donc, quand on a vraiment des symptômes vraiment plus concrets, le mal est fait, on est en insuffisance rénale légère, médium, ou ensuite sévère, dialyse. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'où l'importance d'être alerte.
Oui, alerte aussi, d'avoir des bonnes habitudes de vie, d'être actif. Tu sais, on parlait d'hypertension, de diabète, ça peut venir avec le surpoids, le manque d'activité physique. Ça peut aussi...
Un ensemble de facteurs.
Oui, le tabagisme.
Et... Ah oui, ah oui. L'alcool aussi.
Moins, je dis pas que c'est bon de boire, mais c'est moins direct. C'est pas, okay. c'est pas comme le foie.
Oui, oui.
Mais c'est moins, mais vraiment le tabagisme aussi relié aux maladies rénales.
Et on apprend aussi en lisant le dossier de presse que la maladie rénale touche de plus en plus de personnes de moins de 65 ans. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce que les gens se nourrissent mal, de plus en plus mal?
C'est un peu les cas que je vous disais un peu plus tôt. On voit que des cas de diabète et d'hypertension qui arrivent beaucoup plus tôt dans la population, dans la trentaine, quarantaine. Les habitudes de vie, on parlait d'alimentation, la nourriture
sédentarité
transformée.
Sédentarité aussi.
Nourriture transformée. Puis aussi, je fais juste aussi pointer un point, désolé.
Ouais.
Mais on nous propose récemment beaucoup de suppléments protéinés. Protéiner votre café, protéiner votre milkshake.
Ah oui, ils sont partout les protéines.
Les suppléments de créatine.
C'est bon des protéines, mais il faut faire la part des choses là aussi.
Exactement,
hein?
On y revient encore, c'est la part des choses. Les suppléments de protéines ou de créatine sont vraiment nocifs pour nos reins aussi.
C'est pas tout le monde qui en a nécessairement besoin,
exact.
Comme un athlète olympique. Ou...
Exact. Ouais. Puis on est aussi dans le milieu de conscientiser les gens, mais aussi que les gens sachent les bonnes habitudes pour eux, mais aussi de savoir comment détecter les premiers signes. Et c'est pour ça aussi que je veux parler rapidement du RAC.
Ah non, vous avez du temps.
Le RAC, qui est
le quoi?
Le RAC, R-A-K.
Oui.
C'est le ratio d'albumine sur créatine. Ça a l'air très compliqué, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est vraiment un test que vous pouvez demander à votre médecin lors d'un test de routine.
Ah oui, je vais passer le RAC.
Oui, juste demander votre RAC, c'est une prise de sang, puis ça va pouvoir déterminer exactement le pourcentage de fonctionnement de vos reins. Donc, nous, on essaie de faire en sorte auprès de la communauté
médicale.
C'est la
prévention.
Exactement. Ouais, ouais. On essaie que ce test-là soit de facto proposé aux patients lors d'un test de routine, mais il ne l'est pas encore.
Non, pourquoi?
Donc, c'est une bonne question.
Ouais.
Pourquoi? Je ne saurais vous dire le pourquoi du comment que ce test n'est pas offert, mais je sais que si vous le demandez, le médecin va le faire.
Bon, alors quand on ne sait pas qu'on peut le demander ou quand on n'a jamais entendu parler du RAC, on ne peut pas nécessairement le demander. Mais on peut le demander autrement, dire est-ce que mes reins sont en santé?
Tout à fait.
Puis, ouais.
Tout à fait. Seulement avoir l'idée de prendre des nouvelles de vos reins.
Et toi, tes reins, comment vont-ils? Non, mais je faisais une petite blague. Et la fondation du rein, ça sert à quoi exactement? Ben, ça sert à mettre justement au courant les gens de tout ce que ça peut amener comme complications si on n'y voit pas à nos reins. Là.
Tout à fait. Il y a tout un pan de la Fondation qui est dédié à la sensibilisation, à l'information.
Vous l'avez dit de façon plus, plus simple que moi.
Ce que j'essaie un peu de faire aussi aujourd'hui avec vous, donc sensibiliser le public à la santé rénale.
Amasser
de l'argent pour la recherche, nos programmes et services, prôner un meilleur accès aux soins de qualité et aussi, dans le fond,
Mais quelqu'un qui va... Je vous interromps.
Oui.
Allez-y.
Non, mais je parlais aussi de prôner qu'on est l'organisme principal qui veut prôner l'élimination du fardeau de l'insuffisance rénale et du don d'organes. On est le plus grand organisme de bienfaisance au Canada, que c'est ça la mission.
Ah oui?
Oui, oui. Et aussi la fondation qui a été fondée ici même à Montréal.
Ah bon?
Donc,
Et depuis 18 ans, c'est ce que vous disiez?
Non, la fondation...
La marche
du Rhin depuis 18 ans, la fondation a été fondée en 1964.
Ah, bon, elle a 62 ans.
Exact.
Bon, il y a une personne en dialyse peut passer jusqu'à 1000 heures par année branchée à une machine.
Oui.
À quel point cette réalité-là transforme le quotidien des patients et des patientes et leurs proches aussi?
C'est complètement fou. Désolé d'être totalement franc, mais pensez-y, c'est de 4 à 5 heures, 3 fois par semaine, jusqu'à la fin de votre vie. C'est environ 12 à 15 heures par semaine de traitement.
On ne s'en va pas faire notre sport préféré.
Non, c'est que là, vous allez... Si on parle d'hémodialyse en milieu hospitalier, on va vous brancher à une machine de dialyse. Donc, il va filtrer la totalité de votre sang. Donc, la totalité de votre sang va sortir puis réentrer, filtrer. Donc, 4 à 5 heures branchées, une heure ou deux avant de préparation, une heure ou deux après pour sortir. Et ça, 3 jours semaine... pour le reste de vos jours, hormis si vous avez une greffe, si vous êtes disponible.
Alors,
pour
c'est la dialyse ou la greffe quand on est atteint d'une maladie rénale sévère.
Exactement. Oui. Donc, heureusement, certains peuvent avoir une greffe, mais d'autres ne peuvent pas.
Oui.
N'ont pas la santé pour recevoir une greffe, donc ils ne peuvent pas recevoir, donc ils sont condamnés à vivre en dialyse. Pensez-y, la personne est complètement exténuée, le lendemain, elle récupère. le surlendemain, elle recommence.
Aïe, c'est pas une vie, là.
Ben, c'est
difficile pour la morale.
C'est extrêmement difficile pour le patient et pour leurs proches. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est très...
Physiquement et psychologiquement aussi.
Oui,
là.
C'est très handicapant.
Ouais. Donc, vous les soutenez, les personnes qui sont aux prises avec ce style de vie-là?
Oui, ben, on essaie du mieux qu'on peut. Ouais. On a nos programmes et services pour eux. C'est sûr qu'on a notre fonds d'urgence pour les aider. Les patients, souvent, ne peuvent pas avoir des emplois à temps plein. Parfois, ils ne peuvent pas travailler tout court.
C'est très handicapant, limitant.
Exactement.
Ouais.
Donc, on essaie d'aider avec le fonds d'urgence, les dépenses de transport, de loyer, de nourriture, parfois, qui peut arriver... Mais aussi, on a tous des programmes d'aide scolaire, donc tutorat et bourse. Tutorat pour les enfants primaires secondaires qui doivent manquer des heures de classe pour aller leur traitement. Des bourses pour les cégeps universités qui doivent aussi ne peuvent pas travailler. Donc, on essaie de les aider à poursuivre leurs études. Et finalement, on a aussi notre programme du camp d'été pour les enfants dialysés et greffés. Donc, une semaine au mois d'août, qu'on prend les enfants, on les envoie une semaine dans un camp pour qu'eux puissent rencontrer d'autres enfants aussi, partager leur expérience. Ils sont encadrés par des infirmières, des néphrologues spécialisés, puis ça donne aussi un répit d'une semaine aux parents, parce qu'ils peuvent avoir l'esprit tranquille, que leurs enfants sont pris en charge, passent un bon moment dans un camp, puis se créent des souvenirs. Puis eux peuvent se reposer pour repartir ensuite pour les 51 prochaines semaines.
Alors, je pense que vous existez pour de très, très bonnes raisons. Si on va avoir des informations supplémentaires sur la Fondation, sur les marches du Rhin qui sont en cours, là,
ça commence le 31 mai prochain.
Donc, ça s'en vient dans deux semaines environ.
10 jours, oui.
Oui, on peut aller sur votre site. Vous pouvez nous rappeler l'adresse?
Oui, le site rhin.ca. Donc, toute l'information sur la santé rénale est là. Il y a aussi le site Cuisine et Santé rénale. Si vous voulez avoir des questions sur l'alimentation, trouver des recettes qui sont bénéfiques pour vos reins.
On mange des bananes, mais pas trop.
Exactement. Ouais. On fait de l'exercice et on arrête de fumer.
Andrew Deschênes, ça a été un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes, je ne sais pas si je vous avais présenté, là, parce que ça a commencé un peu sur une patte, gestionnaire développement philanthropique Ouest du Québec, la Fondation canadienne du Rhin, division du Québec. On invite les gens à participer et à donner, à être généreux, c'est important. Merci, Andrew Deschênes.
Merci à vous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
You thought you took everything.
La chanson Pearl de Bobby Basini.
Oui, qui est pas mal occupé. Ce soir, il chante à Kenmore, en Alberta. Il va se promener un petit peu partout, là, au Canada, Saskatchewan. Aussi, il ira à Winnipeg, à Thunder Bay, Sudbury. Et à Jonquière, le 10 juin, au Franco 2026. Il sera à la 5e salle de la Place des Arts le 13 juin. Et puis, il continue sa tournée. La Valtrie, Frélisburg, Victoriaville, Saint-Fabien, Ottawa. Et bobbybasini.com pour avoir tous les détails. Quel talent cet homme et quelle voix. Alors, on y va avec maintenant notre chroniqueuse Anne-Marie Aubin. Elle était en studio avec nous la semaine dernière, mais là, elle est retournée dans son patelin à Maria. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors Anne-Marie, oui, vous avez fait des vérifications. On avait induit sans le vouloir nos auditeurs en disant que vous étiez chroniqueuse en ondes chez nous depuis 7 ans, mais c'est 6 ans pour être plus précis.
Tout à fait, c'est ça. Bon. J'ai confondu 2 années.
Oui, mais ça nous arrive tous d'être confondus. Bon, alors Anne-Marie, aujourd'hui, vous allez nous parler de 2 livres. Je crois que vous les avez appréciés tous les deux pour différentes raisons. On commence avec Migration aux éditions La Pastèque.
Oui, c'est un livre qui est paru en 2025, mais qui est revenu dans le décor parce qu'il s'est mérité le prix des libraires 2026 dans la catégorie BT. C'est un gros album là, de 156 pages, couverture carton, cousu, illustré tout en couleurs, mais ça mérite vraiment le prix. Je comprends pourquoi les libraires ont été bouleversés devant ce texte-là de Jimmy Susan, que je ne connaissais pas, c'est sa première publication. Mais c'est quelqu'un qui est un directeur artistique en publicité, donc qui a gagné beaucoup de prix en design et en illustration dans le mode de la pub. Donc, il a une grande expérience et beaucoup de métiers. Et depuis longtemps, semble-t-il, il pensait à écrire cette histoire sur les origines de ses parents, tout ça. Puis c'est la pandémie qui lui a permis de trouver le temps pour s'y pencher. Et puis La Pastèque a publié ça de merveilleuse façon, comme les publications générales à La Pastèque. Alors, il est question d'immigration, parce que lui, il est haïtien, sa famille est venue suite au régime Duvalier, puis toute la violence qu'il y avait là. Puis il raconte le déracinement, l'exil de ces gens-là, la pauvreté qu'ils vont vivre, le racisme qu'ils vont vivre ici. Et c'est pas sans nous rappeler, par exemple, Caroline Dawson, qui ses parents sont partis rapidement comme ça, puis ont vécu très difficilement pour arriver à faire vivre leur famille ici. Alors, tout ça est très semblable.
Et elle partait du Chili.
Oui. Et puis, justement, il y avait un régime politique qui était, je dirais, triste pour tous les Chiliens, puis plusieurs sont venus vivre ici, puis les Haïtiens de la même façon. Et toute l'histoire commence alors que là, Jimmy est un adulte, il est au salon mortuaire, puis quelqu'un le rencontre, dit « Ah, Jimmy, tes parents, mon Dieu, ont été extraordinaires pour moi, puis tout ça. » Puis lui, il a un souvenir de ses parents très banal. Alors, il se demande « Qu'est-ce que c'est que cette femme-là sait que lui ne sait pas ?» Puis il se dit, ben, coudonc, c'est vrai, je sais rien des origines de mes parents. Alors, il prend le téléphone, il appelle sa mère, puis il a plein de questions, puis elle lui ferme la ligne au nez. Oh. Alors, il explique que finalement, pour ces gens-là, c'est un tabou de parler de ça. Alors, il l'invite dans un café, puis il va lui servir un alcool qui s'appelle le Kahlua, quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est pour la rendre finalement vulnérable.
Un peu plus détendue.
Alors, c'est ce qu'elle fait. Puis elle commence à lui dire que son père, ben, c'est quelqu'un de doux, de gentil. Puis lui, c'est pas du tout ça qu'il a comme idée de son père, mais il l'a connu après qu'il a immigré ici puis qu'il a vécu toutes sortes de violences. Et toute cette histoire-là permet au personnage adulte de mieux comprendre pourquoi il a eu une enfance si difficile dans la violence, la pauvreté. Et finalement, comment aujourd'hui il va revivre les mêmes choses. Ça, c'est triste. Parce qu'on se dit, bon, les parents sont arrivés en 1970 à Montréal, vont subir du racisme, de la discrimination raciale. Puis, on se dit, ça a été difficile pour eux. Mais là, lui, qui aujourd'hui vit en 2023-24 dans l'histoire, vit la même chose. Il y a un voisin qui fait beaucoup de bruit, puis qui le traite de tous les noms, puis il va faire une plainte au service de police qui dit qu'il n'y a pas de loi qui fait qu'on pourrait arrêter cette personne-là. Vous pouvez enregistrer, monter un dossier, mais finalement, il n'y a rien à faire. Autrement dit, il faut vivre avec. Et quand on est noir, c'est peut-être pire que quand on a la peau blanche. Enfin, c'est ce qu'il raconte un peu là-dedans, puis on se rend compte qu'on n'a pas trop évolué. Et ce qui est très beau, c'est toutes les influences graphiques de cet écrivain, auteur, dessinateur, tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a dévoré, et on sent dans le dessin qu'il y a des belles pages sur Montréal à l'époque de ses parents et aujourd'hui. Ça nous fait penser à Michel Rabagliati, qui peint des décors d'autrefois dans ses bandes dessinées et qui publie aussi à la Pastèque.
Oui, qui dessine à partir de photos souvent.
Oui, je pense que lui est allé faire des archives, je sais pas, des recherches. Puis là, ben, en tout cas, on reconnaît des lieux. Puis ce qu'il y a de commun avec aussi Caroline Dawson, c'est que cet enfant-là, comme il subit beaucoup de violences des voisins, du racisme et tout ça, souvent il va dire, bon, ben, je préfère passer la journée à regarder la télé à la maison. Et là, il y a les références comme Passepartout, Goldorak, Star Wars, puis au fil des ans, combien l'image est importante pour lui, ce qui nous fait comprendre effectivement qu'il va devenir un dessinateur. Dans le texte, c'est pas chronologique, il y a du passé, du présent dans la même page parfois. C'est magnifiquement illustré. Par exemple, on va voir le visage de son père, une moitié coupée dans le milieu du visage, une moitié en 1970, puis une moitié aujourd'hui, comment la personne a vieilli, puis comment lui, il est décrit à cette époque-là, puis comment lui, il le voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'anticipation qui nous dit, bon, ils peuvent pas savoir, mais ils vont devenir des amis inséparables, quelque chose comme ça. Des comparaisons dans le temps. Puis une chose qui m'a surprise, c'est qu'il n'y a pas de chapitre 10. Il y a des chapitres dans la suite. Puis là, on passe de 9 à 11. Peut-être que ça a un lien avec le vaudou. J'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé pourquoi c'est comme ça.
Ou une simple erreur.
Ça m'étonnerait que la pastèque sache pas qu'on...
Non, je sais bien, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Il y a quelque chose, mais je ne l'ai pas compris, là. C'est à suivre. Et les personnages sont vraiment beaux parce que c'est l'univers de Jimmy, puis c'est finalement des gens qu'il aime beaucoup. C'est, je dirais, une magnifique bande dessinée que j'ai lue 2 fois et que je trouve superbe et que je recommande à tous, que vous soyez immigrant ou non, ça va vous permettre de comprendre les difficultés que cet homme-là a vécues, la violence qu'il a subie et combien c'est pas encore réglé dans notre cher pays.
Voilà. Prix mérité, hein, lauréat du prix des libraires 2026, catégorie BD, Migration, Migrasion, par Jimmy Suzanne. Et sachez que Kitty Antoine, qui est animatrice ici à Canal M, l'a reçu, Jimmy Suzanne, dans le cadre de son émission Nouveau départ, et vous pouvez écouter, en tout cas, cette entrevue sur notre site Internet.
Excellent.
Autre livre qui pique ma curiosité, Valse anxieuse aux éditions XYZ de Anne-Marie.
Oui, ça c'est une beauté de 101 pages dans la collection Quai numéro 5. Catherine Gauthier, qui est originaire de la Montérégie, vit à Montréal. Elle est graphiste illustratrice et se passionne pour le dessin. Est-ce qu'on m'entend bien?
Non, là on vous entend, mais on dirait que le son est devenu étouffé tout d'un coup.
Ça va mieux?
Oui, là ça va mieux.
Bon, alors, elle se passionne pour toujours pour le dessin, comme d'ailleurs Jimmy aussi. Là. C'est des gens qui étaient créateurs dès l'enfance. Et dans cette collection, elle a un roman graphique, je dirais, qui est à la fois autobiographique, comme une autofiction, mais à la fois un essai sur l'anxiété. Alors, elle raconte, bien sûr, que depuis toujours, elle a quelque chose qui la traque, qui est ce mal de vivre, qu'elle dessine, qu'elle illustre avec un loup pour montrer comment il l'habite. Elle dit que c'est comme un chien renifleur qui est toujours derrière elle. Et puis, bon, ben, elle raconte des anecdotes de sa vie, comment est-ce qu'elle vit avec ça, puis quelles sont les conséquences du trouble anxieux qu'elle vit. Elle dit, parfois, il y a une petite voix, je cite, qui me murmure à l'oreille, c'est pas bon, c'est pas assez, plus vite. Alors là, elle dit qu'à ce moment-là, sa confiance disparaît, puis elle remet tout en question. Et puis elle dit, je cite, « Je me torture dans le conditionnel plutôt que de vivre le présent.
» Alors, belle définition de l'anxiété.
Oui, puis elle va expliquer les réactions qui sont à la fois physiques et psychologiques. Bon, par exemple, physiquement, elle va avoir toutes sortes de malaises. Et psychologiquement, elle dit, « À quel moment les barrières érigées pour me protéger deviennent des barreaux? » Donc, tu te fais une prison. Tu ne veux pas aller à la rencontre d'un autre parce que tu as peur d'être jugé, mais en même temps, tu t'emprisonnes puis tu vas développer des peurs.
Ouais, t'es piégé.
Et, oui, puis là, elle va citer des chercheurs américains, par exemple, qui ont fait des tests avec des chiens, justement, qui les emprisonnent, puis qui d'autres, il y a trois types de comment je dirais ça, d'obstacles. Et puis ceux qui sont les plus, pénalisés, ben, c'est ceux qui avaient beaucoup d'obstacles. Ensuite, elle va parler de la ville, qui est un stresseur, effectivement. Puis là, elle dit qu'à force d'être stressée, on confond les stress absolus du stress relatif. Exemple, un stresseur absolu, ça serait un tireur fou. Effectivement, tout le monde a peur de ça. Mais un stresseur relatif, c'est que demain, tu passes un examen de maths. Bon, ben OK, t'as un petit stress, mais ça va passer. Donc, elle vulgarise beaucoup de phénomènes qui sont liés à l'anxiété parce qu'on sent qu'elle a beaucoup lu sur le sujet. Et puis, toutes les situations sont représentées en gros plan physique. Elle a engagé, elle le dit dans les remerciements, un mannequin qui va poser pour elle dans toutes ces situations. Et puis, un exemple que j'ai trouvé amusant, que je ne connaissais pas, c'est que l'anxiété peut créer des achats paniques. Exemple, en 1973, pendant la crise du pétrole, Johnny Carson, qui animait une émission qui s'appelait « The Tonight Show », a dit en ondes que là, il n'y aurait plus de papier toilette. Alors là, les Américains
comme dans le temps de la pandémie.
Puis c'est ça, ça s'est répété pendant la COVID-19 et un peu partout dans le monde. Moi, je croyais que c'était ici seulement, là, mais des gens m'ont dit non, chez nous, la même chose. Alors, je ne sais pas qui a déclenché cette affaire-là, mais...
Johnny Carson?
Puis, oui, en 73, mais en 2019, je ne sais pas, pendant la COVID-19...
Il a semé des graines, ouais.
Peut-être. Et puis là, ben une autre chose qui m'a étonnée aussi, c'est qu'en 2016, les chercheurs ont demandé quelle est la plus grande peur auprès des gens. Et moi, je croyais que c'était la mort, le cancer.
La maladie.
Mais non, c'est l'inconnu, l'incertitude.
Ah oui.
Alors, quand on ne sait pas ce que ça va être, c'est vrai que c'est une peur terrible. Alors donc, lui, il y a un homme qui s'appelle Alan Watts qui dit « Si on remplaçait les peurs par de l'inconnu, par une curiosité, on va s'ouvrir un éventail de possibilités. » Puis là, il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont avec des prénoms. Là, elle a dû interviewer des gens qui parlent de leur peur. Je vais en citer un. « J'ai peur de la mort. J'ai peur qu'à mes 18 ans, tellement que j'en ai fait une... C'est ça, à 18 ans, j'en ai fait une crise d'anxiété parce que je me trouvais trop vieille. » Signé Élodie, 25 ans. Il y a ensuite... Raymond, 75 ans, j'ai peur de me retrouver seule dans un pays étranger dont je ne connais pas la langue, sans argent. Bon, il y a plusieurs témoignages comme ça qui dit que finalement les gens sont habités par des peurs, ça se peut, c'est tout à fait vrai, et que tout ça, ben, il faut apprendre à vivre avec ou à passer outre, et c'est pas simple, on le dit comme ça, mais bon. Alors elle explique que dans toutes ces peurs-là, elle s'est exclue des relations pour ne pas être jugée par les autres, puis que tous les réseaux sociaux montrent des gens qui vivent des affaires extraordinaires, puis elle a l'impression que sa vie, elle est bien plate. Et là vient le temps des rencontres amoureuses qui la déstabilisent complètement. Puis là, c'est très bien illustré. On voit un personnage à qui elle parle, puis par-dessus le personnage, il y a plein de bulles qui sont ses réflexions à elle pendant qu'elle est avec lui. Exemple, la musique est trop forte, j'entends pas ce qu'il dit. J'ai l'impression d'avoir quelque chose entre les dents, je vais aller aux toilettes vérifier. Oh, il parle beaucoup de son ex. Je radote dessus, mon verre est vide, faudrait que j'essaie de capter son attention. Bref, il y a plein d'interrogations.
Il y a beaucoup de trafic.
C'est pas du tout le moment avec ce gars-là. Elle est toujours dans ça. Puis la partie qui, je pense, touche le plus de gens, là, c'est celle du travail. parce qu'aujourd'hui, on carbure à la performance, à la productivité. Ça mène au surmenage. Et puis là, on a une anxiété parce que là, on dort pas bien, on est irritable, mais on le dit pas parce qu'on va avoir de l'air d'être faible, pas bon, qu'on produit pas. Et puis que le dire, ça serait comme être avouer qu'on a un échec. Et puis là, l'échec, ça se transforme en honte. Puis là, elle dit, la honte se nourrit de secrets, de silence, de jugement. Heureusement, elle a une faille. Lorsqu'une confidence est accueillie avec bienveillance et compréhension, la honte perd de sa force. Alors ça, pour moi, c'est très important, se confier, parler à d'autres, ne pas rester dans sa douleur. Et puis, son loup, justement, c'est ça qui la traque tout le temps. Elle doit le vaincre. Et puis, dans le texte partout, il est question de ce rapport de force avec ça, comme quoi que c'est une lutte. Et puis, au fond, elle se rend compte, en parlant à d'autres, qu'on est tous dans le même bateau.
Est-ce que c'est anxiogène de lire ce livre-là?
Non, je crois qu'au contraire, ça fait du bien parce que tous les témoignages de gens de toutes sortes d'âges qu'elle cite ici témoignent du même mal de vivre. Et les études qu'elle a lues nous montrent que, bon, ben oui, on peut s'en sortir. Et puis, bon, ben, je dirais que c'est pas un sujet qui nous fait sourire, mais qui fait qu'on se reconnaît parce que même si on ne souffre pas beaucoup d'anxiété, on connaît quelqu'un ou on a vécu un épisode comme ça. Moi, je dis que ce livre-là devrait être obligatoire dans tous les secondaires de toutes les écoles du Québec parce que c'est là qu'on décèle vraiment le début de cette panique, de cette anxiété qui habite les jeunes et qui les accompagne trop longtemps.
Et qui gangrène leur quotidien et leur vie.
Exact. Puis leurs études et leur vie personnelle. Alors, un très, très beau livre que moi, je vais suggérer à plein de gens, de Catherine Gauthier, que je ne connaissais pas, mais c'est son troisième roman graphique. Elle en a fait d'autres. Hein.
C'est elle qui l'a écrit et qui l'a illustré, dessiné.
Oui.
Valse anxieuse, Catherine Gauthier, c'est publié aux éditions XYZ. Merci pour ces deux excellentes propositions, Anne-Marie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je ne me souviens pas du temps qu'il m'a fallu. Peut-être ai-je marché une demi-journée. Quel détour ai-je pris et quel chemin perdu. J'arrivais en ce lieu, mais sans l'avoir cherché. C'était un lac petit aux bords inhabités.
Vous avez peut-être reconnu, on vous l'avait annoncé tantôt, là, cet extrait de mémoire par Laetitia Isambert qui présente un spectacle, pas nécessairement hommage, mais dédié à la grande Renée Claude. Ça se passe ce soir à la 5e salle de la Place des Arts et j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres représentations parce que le spectacle de ce soir affiche complet Laetitia Isambert. Ça promet, hein, quand on entend cette chanson-là et cette chanson-là, donc, de mémoire qui évoque la maladie d'Alzheimer dont Renée Claude a souffert malheureusement pendant quelques années. Laetitia Isambert a aussi ses propres projets personnels. Elle a lancé récemment un album. On en écoute un extrait. Voici Poupyrus.
En bas, mens-moi s'il le faut. si je suis trop lourde. C'est moi qu'il faut aimer.
La belle voix de Laetitia Isambert, un tunnelier nommé Lisette. C'est dans la presse sous la plume d'Henri Ouellette-Vizina. L'immense tunnelier qui creusera les futures stations du prolongement de la ligne bleue a maintenant un nom. Il s'appellera Lisette en l'honneur de la première femme opératrice du métro dans les années 80. C'est une vieille tradition dans le domaine. Le baptême du tunnelier place ce dernier sous la protection symbolique d'une marraine. Dans les derniers mois, le public avait été appelé à voter pour sa candidate préférée parmi 5 femmes québécoises ayant marqué l'histoire du génie, du développement durable ou du transport collectif québécois. Et puis, c'est Lisette Saint-Onge, devenue en 1981 la première opératrice du métro qui donnera son prénom au tunnelier. Elle avait été embauchée l'année précédente comme chauffeuse d'autobus. À l'époque, seule une quinzaine de femmes étaient derrière un volant de la Société de transport de Montréal. J'adorais mon travail de conductrice de métro. Je n'aurais jamais imaginé avoir l'opportunité de devenir la marraine du tunnelier pour le prolongement de la ligne bleue. C'est ce qu'a dit la principale intéressée dans une déclaration écrite. Conférence de presse aujourd'hui, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada, a salué cette nomination en parlant d'un moment crucial pour l'avenir de la métropole. Je me souviens très bien quand je suis venue avec tous les élèves de l'école Joseph-François Perrault, inaugurer ce qu'allait être le prolongement de la ligne bleue. C'était en 1987, a-t-elle lancé, provoquant des rires dans la salle. C'est un full circle dans ma vie d'être mairesse de Montréal pour venir inaugurer le tunnelier. Ça ne s'invente pas. Un sourire en coin, le nouveau ministre des Transports, Benoît Charrette, a reconnu que la livraison de ce projet a été un peu trop longue. Certains n'étaient même pas nés quand on a parlé une première fois de prolonger la ligne bleue. Mais on ne boudera pas notre plaisir, a-t-il lancé. Outre son impressionnante roue de coupe, Lisette a été dotée ces dernières semaines de remorques à l'arrière afin de fonctionner à plein régime. D'ici peu, le dispositif sera en marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pourra progresser à un rythme d'environ 10 à 15 mètres par jour. À titre comparatif, la distance du tunnel entre les stations Vertière et Anjou sera d'environ 6 km. Assis sur place, le président de la STM, Aref Salem, a évoqué que la métropole aura besoin d'un prolongement à d'autres endroits dans le futur. On a besoin d'avoir un PSE dans l'Est. Le tunnelier est là, donc profitons-en et on va se donner rendez-vous à la sortie de 2028, a-t-il illustré. En principe, la propriété du tunnelier revient à l'entrepreneur qui a remporté l'appel d'offres, à savoir Pomerleau et EBC. Une fois arrivé en joue en 2028, il doit en principe être désassemblé afin d'être retourné en Allemagne, où il a été fabriqué à l'origine. La réutilisation complète d'un tunnelier est peu fréquente, comme il doit être conçu sur mesure en fonction des spécificités de chaque projet, a indiqué le transporteur. Tel que l'avait révélé la presse en juillet 2024, le prolongement de la ligne bleue devrait coûter 7,6 milliards au lieu de 6,4 milliards qui était l'estimation initiale. Et sa livraison n'aura pas lieu avant 2031. Et puis, en fin de semaine, le réseau express métropolitain continue de s'agrandir. La nouvelle antenne Anse-à-l'Orme est officiellement entrée en service lundi, hier, pendant la longue fin de semaine, ajoutant les stations des Sources, Fairview, Pointe-Claire, Kirkland et Anse-à-l'Orme. Cette antenne dessert davantage l'ouest de l'île de Montréal en surplombant notamment l'autoroute 40 et quatre stations ont pu être empruntées gratuitement samedi et dimanche, mais depuis lundi, les trains du REM, du REM suivent l'horaire régulier. C'est tout pour aujourd'hui. Il me semble que ça a passé vite. On se retrouve demain. Profitez de cette belle journée.